voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, près d'un an après les attentats du Bataclan et de Saint-Denis qui ont fait basculer la France dans une autre dimension de la peur, de la fracture, je reçois une femme qui a choisi de publier son histoire dans un livre qui raconte des années d'errance et de volonté. Bonjour Enda Ayari.
Bonjour.
Vous publiez « J'ai choisi d'être libre, rescapée du salafisme en France ». Vous êtes française, née, grandie en France, d'un père algérien, d'une mère tunisienne. Rien dans votre famille ne prédisposait à l'extrémisme religieux. Et pourtant, vous avez épousé librement un homme tunisien, d'origine tunisienne-français, lui aussi, radicalisé. Et vous avez mis des années à trouver votre identité de cité en cité, dans une France à la fois généreuse socialement, mais qui ne trouve pas le chemin pour sortir les quartiers de la ghettoisation. Et votre histoire ressemble à celle, finalement, de, vous diriez, de beaucoup d'autres femmes aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Elles sont plus nombreuses qu'on le croit à vivre et à traverser ce que j'ai vécu.
Vous les avez d'ailleurs mieux connues parce que tout est parti d'un post sur Facebook, hein, Enda Ayari. On va en parler tout de suite. Vous allez nous raconter votre histoire et votre livre qui, comme très souvent aujourd'hui, démarre avec un message Facebook posté d'ailleurs très peu de temps après les attentats de novembre 2015. Alors c'était quoi ce message Facebook posté très peu de temps après les attentats, quelques jours après ?
Oui, c'était 10 jours après les attentats. Ce jour-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai spontanément partagé ces deux photos. Une à l'époque où je portais donc le grand voile noir, le djellabab, et une seconde donc récente où j'ai les cheveux à l'air libre et je suis habillée avec une veste noire. Et en postant ces photos, c'était ma façon à moi de réagir face à ces attentats et à la barbarie.
C'était aussi une façon de dire que vous revenez de loin.
C'était surtout, au départ, ma façon à moi de dire que je n'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé. C'était ma façon de rejeter cette violence. Et plutôt que des mots, j'ai vraiment eu ce besoin de partager des images. Et donc, avec ces photos, j'ai publié un petit texte qui parle de moi et qui dit qu'avant, je n'étais que l'ombre de moi-même et qu'aujourd'hui, je suis une femme libre.
Ce texte, cette photo, ces deux photos, on vous voit voilée de la tête aux pieds et puis ensuite avec ce blouson, ça a déclenché un torrent, une marée de messages.
Oui, alors ça a été partagé à près de 80 000 personnes à travers le monde. Énormément de messages, des messages en privé, des commentaires. Moi, j'ai été littéralement dépassée parce que jamais je n'aurais imaginé que ça allait être autant suivi. Ça m'a complètement...
Suivi de quelle manière ?
Ce qui s'est passé, c'est que je pense que les gens avaient besoin de s'exprimer parce qu'on était à 10 jours après les attentats. Donc les gens étaient vraiment meurtris par ce qui s'était passé. Et donc, ils se sont servis de ma photo pour pouvoir justement, eux aussi, exprimer leur tristesse, leur colère. Il y avait toutes sortes de messages et aussi leur soutien par rapport au fait que je prenne la décision de retirer le voile. Et donc, il y avait vraiment de tout. Il y avait aussi des personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont insulté. J'ai aussi reçu des menaces. Donc, ça a vraiment été très fort. Mais ce que je retiens le plus, c'est que c'était vraiment des messages plutôt positifs que négatif.
Quelle a été votre vie quotidienne ces 10 ans de femme mariée à un Français salafiste ?
Eh bien, en fait, c'était la vie d'une femme qui n'était pas vraiment elle-même. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aspirais à d'autres choses.
Notamment à étudier ?
Exactement. J'avais une passion pour la lecture. J'avais des rêves. Donc, c'est vrai que je me suis, on va dire, habituée à cette vie de femme au foyer, de femme soumise, et dévouée pour le bien-être de son époux. Parce qu'il avait réussi à me convaincre que la société était mon ennemi, que la France ne nous aimait pas et que, de toute façon, on était là et il fallait que la France nous accepte tels que nous sommes en tant que salafistes. On était dans notre bulle, on va dire. On s'était construit une autre vie, une vie parallèle à l'autre. On était en dehors de la société, on avait notre vie à nous et il m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on quitte la France.
Votre bulle, dans un appartement ? dans la banlieue de Roanne, c'est ça, à une heure de Lyon?
Tout à fait, dans une petite ville donc, qui s'appelait Roanne.
Avec très peu de contacts, y compris d'ailleurs avec d'autres femmes comme vous.
Moi, j'avais très peu de contacts, j'étais assez isolée. Je voyais la plupart du temps ma belle-mère, les sœurs de mon ex-mari. Enfin, j'avais vraiment très peu d'amis, je ne sortais pas beaucoup. Je passais plus de temps à m'occuper de mon foyer, des tâches ménagères et des enfants, et puis surtout à étudier la doctrine salafiste, car c'était très important pour mon ex-mari de... que je m'informe sur cette doctrine.
Dans des livres, sur Internet ?
Alors, surtout dans des livres que lui-même m'avait demandé de lire. Il me faisait des contrôles, des devoirs, il me notait, il me posait des questions. Alors, il fallait que j'apprenne par cœur des phrases, les noms de savants, comme un lavage de cerveau, en fait.
Pas de carte bleue, pas de travail ?
Dès le départ, je suis tombée enceinte très rapidement. Ensuite, à quelques mois de grossesse, donc, il y a eu des premiers versements d'allocations familiales donc, qui étaient versés sur le compte de mon ex-mari. Donc moi, je n'avais rien, je n'ai rien touché pendant 10 ans. L'argent des allocations familiales, c'était la plus grosse partie de nos revenus. Et donc, c'est sur le compte de mon ex-mari.
Votre époux ne travaillait pas ?
Alors, il travaillait très rarement parce qu'en fait, il se plaignait qu'on ne lui donne pas de travail à cause de sa barbe, que les Français étaient racistes, qu'on ne voulait pas l'aider à trouver un travail. Donc, parfois, il travaillait au noir ou en intérim et donc, il économisait. Il était vraiment très près de ses sous. Donc, c'était important d'économiser parce qu'il me disait qu'il fallait qu'on quitte la France absolument. Il me parlait de l'Arabie Saoudite, il me parlait des Émirats. Donc, on a visité ces pays. Effectivement, il me disait que là-bas, on pouvait vivre totalement épanouie, que la femme pouvait sortir un peu plus souvent de chez elle parce qu'il y a des choses, des restaurants où les hommes et les femmes sont séparés, beaucoup de choses pour les femmes musulmanes et les hommes musulmans. Donc c'est vrai qu'on avait, enfin moi j'avais cet idéal.
Votre mari avait, vous le disiez, vous avez vécu dans cette bulle, une bulle à l'intérieur même de la France, votre pays, votre patrie, une bulle et surtout une haine de la France en fait, hein, que vous allez nourrir grâce à votre mari, une haine de la France, une haine des Français, donc de vous-même hein, forcément, voire aussi des autres musulmans non salafistes, c'est-à-dire de la majorité des musulmans.
Voilà, en fait, je suis devenue tout ce que je ne voulais pas être, c'est-à-dire sans m'en apercevoir au fur et à mesure des années, j'étais devenue complètement intolérante, je m'étais enfermée sur moi-même, c'est-à-dire que je pensais que nous détenions la vérité, que nous étions le groupe sauvé, parce qu'il me l'avait dit, il m'avait expliqué qu'il y avait 73 sectes dans l'islam, qu'une seule faisait partie du groupe sauvé, et puis...
À savoir les salafistes, et exactement. Surtout pas les frères musulmans jugés trop laxistes, pas assez rigoristes.
Exactement, il disait que les frères musulmans cherchaient à ressembler donc aux mécréants, sur leur façon de s'habiller, qu'ils faisaient des efforts pour s'intégrer et que ça, c'était pas notre rôle de faire des efforts pour nous intégrer dans la société. Bien au contraire, il fallait que la société nous accepte. Et donc, les personnes qui n'étaient pas de courant salafiste ou les non-musulmans, nous devions les considérer comme nos ennemis. Et on avait aussi cet esprit de supériorité. C'est vrai qu'à un moment donné, je plaignais les autres personnes. En fait, je les prenais en pitié. Je disais, ces gens... Eh ben, en fait, sont perdus. Et nous, on détient la vérité. Donc, c'est vrai qu'il avait réussi à me mettre ces choses dans la tête sans que je m'en rende compte, en fait. Donc, c'est comme si c'était un gourou et que j'étais tombée dans une secte.
Est-ce qu'il veut dire que votre mari lui-même, qui venait d'une famille tunisienne pieuse, mais je veux dire pas spécialement extrémiste du tout, était lui-même en conflit avec sa propre famille,
tout à fait.
Notamment son père.
Tout à fait, il était en grand conflit avec son père parce que son père, qui était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, ne supportait pas justement les salafistes. Il critiquait justement la démarche de son fils et leur relation s'était envenimée depuis que mon ex-mari avait suivi la doctrine salafiste. Il considérait ses sœurs comme des prostituées, il les insultait régulièrement de prostituées.
Ses sœurs étaient voilées ?
Elles ne portait pas le voile, il les insultait, il ne les supportait pas, il ne voulait pas qu'elles viennent trop souvent à la maison parce qu'il avait peur que ses sœurs m'influencent dans le mauvais sens. Et donc, ce n'était pas des relations apaisées dans la famille, vraiment loin de là.
Tout a commencé finalement avec vous, pour vous, avec le voile. Ce voile, vous l'avez mis, vous l'avez enlevé, vous l'avez remis. Vous allez nous expliquer dans quelques instants, Enda Ayari, quel a été le rôle des femmes aussi dans votre conversion salafiste, si je puis dire, et comment vous êtes tombée dans ce piège. I wanna let it show. It's
I inflict them like ooh, into a rage when I'm on stage. I catch the symptoms, yeah, I'm ill. Take a picture to Kodak. I know you know that, but I'm still trying to show that chill back. Kicking it like kung fu. I bust through your living room like I own you. I'm rocking a show when I roll through the beat. All you minions at my feet, I'm like that jock, so get like me, yeah, get like me, get like me. I'm feeling free. So I'm coming through with speed, you might miss it. Open your eyes, head to the sky, you know I'm in it.
No Filter, nous sommes en compagnie de Denda Ayari. Vous publiez « J'ai choisi d'être libre ». Vous nous racontiez cette vie quotidienne, 10 ans avec un mari salafiste, épousé d'ailleurs civilement, il faut bien le préciser, hein, en France. Enfin, en Tunisie d'abord pour le mariage religieux, mais ensuite civilement en France, qui vous a donné des droits sociaux notamment. Vous avez eu 3 enfants avec cet homme. Comment êtes-vous tombé là-dedans alors que votre maman n'était pas voilée? Vous venez d'une famille qui avait une vie de couple difficile, hein, mais comme beaucoup de familles finalement. Hein. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette histoire-là?
En fait, tout s'est passé très vite. On est issu d'une famille qui est, entre guillemets, déchirée, parce que moi, j'avais du mal à trouver ma place au sein des deux familles, parce que je n'avais pas qu'une famille. J'avais mes parents qui ont divorcé très tôt, donc il y avait la famille de ma mère, donc qui avait des enfants avec son nouveau mari. Il y avait la famille de mon père qui a eu des enfants avec sa nouvelle épouse. Donc moi, j'étais vraiment entre les deux. Donc je me cherchais, je cherchais ma place. Donc en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai eu des failles affectives, parce que même au niveau de la relation avec ma mère, c'était très compliqué. Je peux dire aujourd'hui, oui, que j'ai eu une enfance, j'ai été maltraitée, donc j'ai eu une enfance très, très difficile. J'ai été maltraitée par ma mère. Ensuite, quand j'avais la vingtaine, je me cherchais, je voulais comprendre pourquoi j'étais rejetée, parce que ma mère, quelque part, elle était destructrice avec moi. Elle était très attachée à la tradition. Donc, pour elle, il était important que la fille soit vierge au mariage, qu'une fille épouse un homme riche pour pouvoir être entretenue. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a élevée avec ces idées-là. Et c'est vrai que moi, j'avais d'autres aspirations. Moi, je m'étais accrochée à l'école, aux études. Mmh. Donc, c'était aussi ma bouée de sauvetage, la lecture. Donc, c'est vrai qu'en grandissant, j'avais des failles. Et quand on sort de l'adolescence et que on est en insécurité affective, familiale, même sociale, parce que il faut dire que lorsque j'étais au collège, moi, je rêvais de devenir soit juge pour enfants, soit psychologue, en fait, un métier qui était peut-être en lien avec ce que j'avais subi, avec ces maltraitances. Et c'est vrai qu'au collège, quand j'étais en troisième, les professeurs m'ont fait comprendre que jamais je ne pourrais faire une seconde classique. Et ça, je l'ai très mal vécu parce qu'on m'a mis d'office en BEP, donc pour passer donc un bac professionnel. Et c'est vrai que ça, ça a été difficile pour moi.
Vous êtes parvenue à obtenir le bac, à aller à l'université à Rouen. Hein. Vous avez grandi dans la banlieue de Rouen. Vous vous inscrivez à la faculté de sociologie. Et là, on a l'impression qu'à chaque fois que vous êtes sur le point de vous en sortir, finalement, il y a quelque chose qui se trouve sur votre route et qui va vous détourner. Vous avez fait des rencontres avec des filles extrêmement pieuses, pratiquantes, et qui vont vous emmener vers le salafisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait déjà à l'époque, on est à la fin des années 90, hein, est-ce qu'il y avait déjà à l'époque un rôle organisé pour ces femmes dans le recrutement pour des groupes salafistes? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait une filière organisée, ou c'était finalement un réflexe spontané de prosélytisme?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre que j'ai faite avec les sœurs, puisque on les appelle les sœurs musulmanes à la fac, c'était des personnes qui suivaient plutôt la tendance frères musulmans, c'est-à-dire des femmes qui portaient un petit voile, qui voulaient faire des études, donc qui étaient complètement ouvertes et puis qui voulaient s'insérer dans la société, tout en gardant le voile. Et ensuite, on m'a mis en contact avec une femme, donc c'est l'une de ses sœurs justement de la fac, qui m'a mis en contact avec cette fameuse femme qui m'invite chez elle et qui est salafiste. Et là, qui me fait, pour la première fois, qui me fait comprendre que je ne porte pas le voile qu'il faut, que je suis dans l'erreur en fait. Elle me fait toute une nuit, donc elle me fait comprendre que c'est la voie du salafisme qu'il faut suivre. Et c'est comme ça que je fais la première rencontre donc avec une salafiste. Et effectivement, je pense que c'était plutôt une démarche. En fait, sa démarche à elle était naturelle. C'est une personne qui était mariée. Je pense qu'il venait aussi de rentrer récemment dans le salafisme.
Extrêmement bien organisé, puisqu'en fait, en quelques jours, il y a un mari qui vous tombe tout cuit, qui arrive et qui se présente et qui est prêt à vous épouser.
Voilà, exactement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc la doctrine salafiste, elle était propagée depuis l'Arabie Saoudite, vraiment de façon très importante en France. Hein, à la fin des années 90, surtout. Il y avait énormément de librairies un peu partout qui poussaient comme des petits champignons, donc des librairies avec des livres salafistes, de savants salafistes, des mosquées, des conférences.
Vous avez senti monter tout ça au début des années 2000, puisque alors, vous avez quitté votre mari en 2006, donc c'était il y a 10 ans finalement hein, déjà. Vous avez senti monter également les tendances djihadistes? Ou pas?
Alors non, ça a pris
bien
un peu plus de temps.
Vous aviez peu accès aux discussions entre hommes, hein, il faut bien le dire aussi.
Oui.
Vous étiez à la cuisine lorsque votre mari recevait d'autres hommes.
Tout à fait. Et donc moi, j'avais une discussion, je me souviens, avec mon mari. Je lui ai posé la question parce que ça me troublait en fait ce côté djihad. Donc j'avais aussi lu dans le Coran le mot djihad et ce mot-là me troublait. Donc je lui ai demandé des explications et il m'a expliqué que le djihad était une obligation pour un musulman. Et ça m'a fait très peur parce que je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu serais capable d'aller combattre
prendre les armes
pour le djihad? Et il m'a dit, si il y a le djihad et que je suis dans l'obligation d'y aller, j'irai parce que je n'ai pas d'autre choix. Donc, vous voyez, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un réel danger dans cette doctrine parce que je me suis dit, mais non, je pensais que l'islam, c'était une religion de paix. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à mes garçons parce que j'ai eu deux garçons et j'ai commencé à me poser des questions.
Ndaye Harry, vous restez avec nous, nous allons rendre l'antenne pour le flash. Nous allons essayer aussi de comprendre comment vous vous en êtes sorti pour vos enfants, qui vous a aidé aussi, quelle a été la main tendue de la France, mais aussi quels écueils, et puis surtout comment vous voyez à l'heure actuelle cette fracture en France, ces conflits à l'intérieur même de nombreuses d'ailleurs familles issues de la communauté musulmane aujourd'hui, et quelles seraient à vos yeux les solutions, vous qui connaissez bien les problèmes de l'intérieur.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, je reçois Ndaye Harry. Vous publiez « J'ai choisi d'être libre, rescapé du salafisme en France ». C'est publié chez Flammarion. Vous avez passé 10 ans marié avec un Français salafiste, des années ensuite pour vous reconstruire. Et vous publiez ce livre, intéressant évidemment d'en parler, parce que d'abord, ce livre est né quelques jours après les attentats du 13 novembre en France. Vous avez posté un message sur Facebook, vous avez posté vos deux visages, celui d'une femme voilée de la tête aux pieds lorsque vous étiez l'épouse d'un homme salafiste en France, vivant dans une bulle, vous le racontiez en première partie, hein, dans un appartement, dans la banlieue de Roanne, avec très peu de contact avec le monde extérieur, alors que vous êtes née, vous avez grandi en France, vous avez le baccalauréat, vous avez étudié à l'université, et vous avez posté quelques jours après les attentats pour dire à quel point vous étiez bouleversée. Cette page Facebook ne vous appartenait plus en quelques jours, partagée par près de 80 000 personnes dans le monde. Bien sûr, ce sont les photos qui faisaient réagir. Vous, en femme moderne, non voilée, émancipée, vivant votre propre destin, et puis vous, sous la tutelle d'un mari qui vous avait d'ailleurs confisqué votre carte bleue, qui vous interdisait de travailler, qui vous interdisait d'étudier et qui vous autorisait uniquement en fait, à faire la cuisine et à élever vos enfants tant bien que mal grâce aux aides sociales puisque lui-même prétendait qu'il ne pouvait pas obtenir de travail à cause de son positionnement extrémiste religieux et de sa barbe. Voilà ce que j'ai à peu près résumé. Votre histoire qui est en même temps longue et complexe.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça.
Enda Ayari, nous avons choisi de donner la parole à une femme qui est à Montréal aujourd'hui. Bonjour Djemila Benhabib.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes militante québécoise d'origine algérienne. Et je dirais, alors bien sûr, je vais vous demander de résumer, vous, votre parcours très rapidement, en quelques mots, si c'est possible, parce que votre histoire à vous aussi est complexe. Je dirais que votre parcours est un peu à l'image de l'histoire et de la géopolitique.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis née en Ukraine d'une mère chypriote grecque et d'un père algérien. Donc, en 75, nous nous installons en Algérie et mes parents sont des figures, disons, publiques. Mes parents sont professeurs d'université. Ce sont des militants pour la démocratie. Et au début des années 90, eh ben, on se heurte à cette montée fulgurante de l'islam politique en Algérie. Donc je me retrouve comme des milliers de femmes en Algérie dans la gueule du loup en train de résister à l'hydre islamiste. Donc nous étions nombreux à cette époque à vouloir vivre libre, à résister au joug de l'islam politique, à ne pas porter le voile islamique, celui-là même qui nous a été imposé par le GIA, qui est un groupe paramilitaire affilié au Front islamique du Salut. Donc forcément, cette histoire ne m'a plus jamais quittée.
Ne vous a plus jamais quittée ? Pourquoi ? Vous avez vécu en France, aujourd'hui vous vivez au Canada, pourquoi cela ?
L'islam politique est une internationale qui est capable de frapper autant en Algérie qu'ailleurs. Et c'est ailleurs pour moi, donc ça a été d'abord la France et ensuite le Canada. Lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre de l'année 2001, je me trouvais dans la capitale fédérale, donc à Ottawa. Et là, j'ai réalisé que finalement, ce que j'avais fui en Algérie en 1994, eh bien, est venu me rattraper quelques années plus tard. Et ensuite, bon, il y a eu évidemment des attentats un peu partout dans le monde. Et depuis, donc, j'ai voulu témoigner, intellectualiser ce témoignage, ce que j'avais vécu pour essayer de le partager au plus grand nombre. Pour témoigner de l'horreur, mais aussi de la résistance et dire surtout que l'intégrisme musulman n'est pas une fatalité.
Vous avez lancé depuis une croisade contre des écoles musulmanes à Montréal. Pourquoi ? Que leur reprochez-vous ?
Croisade, c'est quand même trop dire. En fait, j'ai...
En tout cas, vous faites l'objet d'une poursuite judiciaire par une école privée musulmane à Montréal, hein ?
Voilà, exactement. Donc, je fais l'objet d'une poursuite judiciaire qui m'a été intentée par une école musulmane qui impose eh bien, une lecture salafiste du Coran et qui exige donc des enfants la mémorisation de versets coraniques, qui déshumanise les non-croyants, qui appelle à leur extermination, qui impose aussi aux petites filles le port du voile islamique, aussi jeune que 9 ans. Alors, vous imaginez que si on formate un enfant à partir donc eh bien, du jeune âge, que va-t-il devenir ? Quel adulte va-t-il devenir ? Donc, pour moi, c'est le refus de la citoyenneté. Et donc, je ne peux pas accepter cela, d'autant plus que cette école reçoit pratiquement un demi-million de subsides de la part du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation.
Mais vous dites finalement, de l'Algérie à la France jusqu'au Canada, vous êtes en permanence rattrapé par cette internationale islamiste, comme vous dites. Est-ce que ça n'est pas vous, en fait, qui militez où que vous soyez, parce que le Canada n'est pas un pays qui connaît particulièrement des tensions avec sa communauté musulmane ?
Moi, je vous assure, j'aurais aimé partir l'association internationale des amoureux des papillons. Je suis pas. Enfin, il y a plein de choses dans la vie qui sont très intéressantes. Je suis d'un tempérament joyeux, donc vous devinez bien que si je m'occupe de ces questions-là, c'est vraiment parce que je suis forcée. C'est-à-dire qu'il y a une urgence. Regardez nos amis de Charlie Hebdo. Bon, on peut pas dire que c'était pas des gens qui aimaient rire, que c'était des gens. Non, c'était des gens qui étaient lucides, mais qui ont décidé d'exercer leur métier d'une certaine façon, c'est-à-dire dans la continuité de la philosophie des Lumières, en portant la critique des religions. Oui. Donc, j'estime que cette posture philosophique mérite d'être défendue, surtout en ce moment, parce que finalement, ce que nous défendons, c'est le droit à la vie, tout simplement. Voilà.
Mais Enda Ayari, alors vous qui êtes dans le studio à Paris, vous avez choisi d'être libre, c'est le titre de votre livre, mais vous avez choisi de raconter finalement votre histoire, hein, sans chercher nécessairement à tellement extrapoler, à donner des leçons politiques aux autres. Mais puisque vous êtes une femme de l'intérieur, comme vient de le dire Jemila Benhabib, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui pèse sur vous une forme de responsabilité de parole publique?
En fait, j'en ai pris conscience au fur et à mesure de mes publications sur ma page Facebook, notamment suite à la publication de mes deux photos. Je voyais les réactions des gens. Moi aussi, ça m'a aidé à prendre conscience de la gravité, en fait, de la situation. Parce que plus le temps passe et plus je me suis rendu compte qu'en fait, ces extrémistes essayaient de grignoter des parties de notre société.
Mais ça veut dire que vous êtes en train de devenir une militante malgré vous?
Non, parce que moi, j'ai toujours aimé rester dans l'ombre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je n'ai jamais parlé de mon passé avant sur les réseaux sociaux. Je philosophais, je parlais de belles choses. Et c'est vrai que du jour au lendemain, depuis un an, même les personnes qui me suivaient avant m'ont dit « mais tu as changé ». Et je leur ai dit « mais ce n'est pas volontaire, en fait. Ça s'est fait naturellement parce qu'il y a tellement de choses qui me paraissent aberrantes que je suis vraiment dans l'obligation maintenant de les dénoncer ». Et peut-être aussi de mener ce combat, peut-être malgré moi, mais j'en prends cette responsabilité et aujourd'hui je l'assume.
Ce qu'on découvre dans votre livre, Enda Ayari et Jemila Benhabib, vous pourrez réagir dans votre récit. Alors je ne sais pas si c'est le récit qui met davantage en avant ces problèmes-là, mais c'est la violence des débats qui touche avant tout la communauté musulmane, les familles qui sont déchirées de l'intérieur, vous décrivez dans la famille de votre mari, dans votre famille. En fait, il y a en permanence des conflits, des engueulades, des brouilles, alors dans toutes les familles. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a une grande violence aujourd'hui dans ces familles-là.
Oui, en fait, moi je m'en suis rendu compte dans ma propre famille parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées que si on ose dire non, eh bien là on est tout de suite jugé et rejeté même. Parce que en fait, on grandit avec ça, on nous inculque ces choses-là. Donc
ça veut dire que c'est une communauté qui ne se donne pas le droit au débat à l'intérieur d'elle-même?
Alors en fait, c'est devenu même quasiment tabou. Il y a des sujets, par exemple, dans ma famille, on m'a dit « Écoute, si tu as retiré ton voile, c'est ton problème, c'est ton choix, mais pourquoi le dire publiquement? Tu te mets en danger ?» Alors, ils sont plus inquiets qu'autre chose, mais moi, je leur ai expliqué que après les attentats, ce qui s'est passé pour moi, c'était beaucoup trop grave pour que je garde le silence. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réagi, parce que je savais que, au fond, la doctrine salafiste, c'est une doctrine qui accepte et peut-être même parfois qui revendique ces attentats terroristes. Donc à un moment donné, j'ai pris conscience que moi-même, j'en faisais partie et que j'ai rejeté justement cette violence.
Mais la mobilisation des Français musulmans, comme certains l'appellent, est-ce que c'est pas un piège communautariste aujourd'hui ou au contraire un devoir? Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Moi, alors, il y a beaucoup, énormément, d'ailleurs, la majorité, ce sont des musulmans qui m'ont attaqué, qui m'ont menacé, qui m'ont harcelé, parce qu'en fait, ils m'ont reproché d'en rajouter. Ils m'ont dit, eh bien, nous sommes déjà victimes du racisme, de l'islamophobie ambiante, pourquoi tu en rajoutes et pourquoi tu nous critiques? Alors, moi,
Vous êtes accusée de faire le jeu de l'islamophobie?
Tout à fait. Alors en fait, je suis à l'intérieur, donc je réponds, mais c'est une autocritique. C'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas suivre aveuglément sans chercher à comprendre ce qui se passe. À partir du moment où on se remet en question, on a des réponses. Le problème dans la communauté musulmane, c'est qu'ils ont énormément, beaucoup de musulmans ont énormément de mal à se remettre en question. Et je pense que c'est la base. Il faut absolument remettre en question justement certaines choses.
Au risque d'être récupéré parfois politiquement?
Alors, dans tous les combats qu'on mène, on prend toujours des risques. Mais je veux dire, moi, je ne serai pas récupérée parce que j'ai décidé de ne pas l'être. Mais c'est-à-dire que...
Vous n'avez pas une tête à être récupérée, effectivement.
Voilà, je pense que, avec ce que j'ai vécu de l'intérieur, je n'ai aucune ambition politique ni...
Djemila Benhabib à Montréal.
Bah écoutez, très sincèrement, moi je ne réagis pas comme étant une personne appartenant à une communauté, je réagis comme étant une personne appartenant à l'humanité. C'est mon instinct de vie qui me pousse aujourd'hui à défendre la liberté. Et je ne le fais pas au nom d'une quelconque appartenance ethnique ou religieuse. Je pense que lorsque la liberté est attaquée dans un pays, dans le monde aujourd'hui, elle est attaquée par une organisation totalitaire, nous avons le devoir, la responsabilité de résister. Et nous n'avons pas à nous justifier.
Merci beaucoup Djemila Benhabib. Vous étiez à Montréal, vous êtes écrivain, militante québécoise d'origine algérienne. Vous avez notamment publié « Après Charlie, laïque de tous les pays, mobilisez-vous ». Enda Ayari, on n'a pas évidemment raconté comment vous vous en êtes sortie aujourd'hui. Comment vont vos enfants? Comment vous, vous allez?
Mes enfants vont bien, je vais bien. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont épanouis. J'ai des très bonnes relations avec eux. Et puis moi, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon époque, je suis bien dans mon pays.
Et vous avez un travail ?
J'ai fondé une petite société dans les confiseries naturelles. Et puis, j'ai aussi fondé une association.
Ah justement, voilà. Cette association s'appelle ?
Libératrice.
Oui.
En fait, c'est pour aider les femmes qui ont traversé le même type de difficultés que j'ai traversées, pour pouvoir justement les aider à rebondir et à s'insérer dans la société.
Quel est le dialogue que vous avez avec des femmes qui se reconnaissent dans votre histoire?
J'ai reçu énormément de messages dès le départ. J'ai eu beaucoup de femmes de tout âge qui m'ont contactée, des femmes musulmanes, des femmes qui souhaitent aussi se convertir, mais qui se posent des questions. Et malheureusement, des femmes en grande souffrance, qui sont battues, qui m'appellent au secours. Ces femmes-là, je pense beaucoup à elles. Et c'est vrai que...
Néanmoins, toutes les femmes qui épousent des hommes salafistes ne sont pas forcément victimes de violences.
C'est important de le dire. Oui, effectivement, que toutes les femmes qui sont mariées à des salafistes ne sont pas battues, forcément. Il y a des femmes qui le vivent très bien, c'est leur choix, alors tant mieux pour elles. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les femmes qui souffrent, parce que moi, je suis passée par cette souffrance, et c'est pour ça que j'ai fondé l'association, justement, pour pouvoir leur tendre la main.
Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui ont envie de redevenir libres, tout simplement ?
Eh bien, je leur dis qu'il faut avoir le courage de faire le choix de changer de vie, mais elles ne pourront pas changer de vie tant qu'elles ne l'auront pas décidé dans leur tête. Je l'ai fait seule, je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Ça, j'ai mis des années pour...
Vous êtes passée par des hospitalisations, vous avez perdu vos enfants pendant 2 ans. Beaucoup d'hommes salafistes sont venus vous proposer de généreux services sexuels, il faut le dire aussi.
Sous couvert du mariage religieux, on m'a proposé de l'aide à une condition, c'est que j'accepte le mariage religieux avec ces hommes, bien sûr, ce qui sous-entend d'avoir des relations sexuelles, bien sûr, ce qui est entre guillemets une forme pour moi de prostitution. Ce que je n'ai pas accepté, bien sûr.
On découvre beaucoup de choses, notamment sur certaines obsessions de prédicateurs avec qui vous correspondez dans votre livre. Enda Ayari, il faut lire toute votre histoire. J'ai choisi d'être libre, rescapée du salafisme en France. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Avec plaisir.
Encore quelques minutes. Dans quelques instants, on passe à un autre sujet, même si nous restons dans les quartiers, quand les habitants des cités issus de l'immigration se mobilisent pour les migrants. Ce sera un reportage, ça sera juste après Aïda Hamdi. بدل ما لي راسي هني ندور حواس هزيت قطارتي ومالي ومشيت نعمل فيك اواس 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 بدل ما لي راسي هني ندور حواس كريتها من بعيد قلبي لي بوقيد العالم دار ومخي احتارتي كيفي كيف الغير في المالين حير ما عندي دار كان فن في بلاد الغدارة تمالك قولي قولي وفاشي تشوفي يا بنياتي فاشي تشوفي يا بني هواي وضعتي ظروفي والحكي مقطع في فلوسي يا بني هواتي فاشي تشوفي يا بنياتي فاشي تشوفي يا بني We'll be right back.
خواتي قبلتي قالوا ما لعلي اسمع اش صار يا صاحبي شاي ما بد مازال مخنوق بنادي نحكي القصة رزع بيقلي لحتى في النوم يرقد عيني محلولة حبيت نكون في النان صرت سلاحي ورا الجيتارة عسكري لابس دقي ديما ماشي طولة صلت بلاد الجيش مفني عندي ما نقولوا انا نحبي انت يا مصرارة ايه نخزر من بعيد بعيني المغيارة وانا 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 نحبك انت يا مصرارة نخزر من بعيد بعيني المغيارة على خاطر طريقي فلا أم.
Préparer des repas pour les migrants, c'est devenu un défi Facebook. Je pense que vous êtes au courant, Ndayari. Malik Diallo, un chauffeur-livreur de 26 ans, habitant de Sarcelles, en Seine-Saint-Denis, est à l'origine de l'initiative. Choqué par les conditions de vie indignes des migrants qui sont installés sous la ligne de métro à Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, il a été le premier à mobiliser fin septembre les jeunes de son quartier pour préparer, pour distribuer des repas. Une fois le défi relevé, il décide de créer une page sur Facebook, le Grand Défi, ça s'appelle, sur laquelle il appelle d'autres quartiers à faire de même. En l'espace d'un mois, une dizaine de quartiers ont déjà joué le jeu. Et dimanche dernier, c'était au tour du quartier des Chardonnerettes à Sarcelles de relever le défi. Il était convenu que la distribution se ferait à Stalingrad, donc dans le 19e. Mais deux jours avant le défi, les 3850 réfugiés installés là-bas ont été délogés par la préfecture d'Île-de-France, répartis dans des centres d'hébergement d'urgence de toute la région parisienne, dont à Sarcelles d'ailleurs, dans l'ancienne maison de retraite des Cèdres Bleus. Et c'est donc à Sarcelles que les Sarcellois sont venus relever leur grand défi. C'est un reportage d'Alice Milo.
Allez-y, allez-y. Attends, la queue, ça grandit, elle était comme ça, la queue.
C'est la distribution des repas qui se passe, là, avec les migrants. Là, il y a la queue. Et après, ils rentrent dans la maison de retraite.
On a mis en place un circuit afin qu'ils reçoivent leur nourriture et qu'ils puissent rentrer directement dans leur chambre.
À Vunay, il y a quoi ? Il y a une centaine de migrants qui sont venus ?
850 migrants à l'intérieur.
850 ?
850 qui viennent de Stalingrad. Ils ont été logés là en attendant d'être dispatchés dans plusieurs centres.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment tout ça a commencé, en fait ?
Bah, écoutez, à Sarcelles, il y a une sorte de challenge interquartier qui s'est mis en place.
Le grand défi, hein.
Exactement, le grand défi. Notre quartier, il a été nominé par un quartier précédent qui s'appelle Les Rosiers. On avait une semaine pour tout mettre en place. On a mobilisé, je pense, tout le quartier. Comme je vous ai dit, les grandes sœurs, les grands frères, les mamans, les papas, les petits-enfants. Il y a une quête qui avait été organisée en début de semaine. Ça a permis de rapporter des fonds.
On a fait une liste de courses de tout ce qu'on devait acheter. Chacun a une tâche. Et on a cotisé et on a fait les courses. Et après, on a commencé à prendre quelques petites personnes pour couper les ingrédients, pour couper les carottes, exemple, les légumes et tout ça. Et
du couscous. Du riz avec de la sauce, des légumes, de la viande. Couscous.
Il y a eu du riz avec du poulet, c'est une spécialité malienne. Et il y a eu aussi une spécialité antillaise.
Donc chacun a cuisiné à la maison chez soi et ensuite vous avez fait la collecte dans tous les appartements.
C'est Souleymane qui est parti récupérer la nourriture, chacun a ramené ses repas, ses plats.
Et après on les a mis dans des barquettes, on a fait toute la chaîne, on a mis dans des sacs avec des boissons, une bouteille d'eau et un fruit et du pain.
Est-ce que vous savez combien de repas vous avez préparé ?
Je crois 1000 à peu près, 900 ou 1000.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Franchement, je voyais leur sourire, ça faisait super plaisir de voir qu'ils sont contents, qu'on peut les aider, qu'ils voient qu'il y a des personnes qui viennent en aide pour eux, ça fait chaud au cœur.
Et Daoud, parlez-nous quand ça bloque là-bas.
Vous êtes un des migrants qui habitait dans le centre d'hébergement là ?
Oui, oui.
Ce soir, vous avez eu un repas ?
Oui, ça c'est l'amour, parce que c'est pas toutes les villes qui vont te donner à manger.
Avant, vous étiez à Stalingrad ?
Stalingrad, Jaurès, à côté de la chapelle. Oui, c'est trop difficile. Maintenant, froid, il y a beaucoup de personnes malades.
Vous venez de quel pays ?
Angola. Je suis ingénieur informatique, parti Angola. Et là-bas, les militaires parlaient que je suis mercenaire et militaire. Je suis trafiqué de Kalachnikov, comme ça, torture beaucoup. Torture.
Ils vous ont torturé ?
Oui, beaucoup, regarde. Ça, c'est torture.
On ne peut pas imaginer juste un quart de ce qu'eux, ils ont vécu. C'est impossible. On ne peut pas se mettre à leur place. C'est pas possible.
Traverser juste la mer sur une embarcation et je pense que...
Traverser la mer sur des bouées pour quitter un pays, des familles, quitter sa femme, ses enfants, sa mère, son père. Nous, on ne peut même pas l'imaginer ici parce que nous, on est là, on vit avec nos parents. C'est impossible. Ils ont passé des jours sans boire, sans manger. On ne peut même pas imaginer ce qu'ils ont vécu.
Ça peut arriver à tout le monde.
Donc, je vois pas où est le problème. Ils ont tout quitté pour une vie meilleure. Donc, ils ont fui la guerre, les bombardements. Donc, je vois pas en quoi ils sont méchants, en quoi ils cherchent juste à avoir, à toi, à manger, comme tout le monde.
Nous, on le fait aujourd'hui, mais qui va le faire demain? On aimerait bien que ce soit tous les jours, que ce soit pas que nous, que ce soit l'État. On aimerait bien que ce soit tous les quartiers, toutes les villes, que ce soit partout, que ce soit pas que nous, que ce soit vraiment partout, que tout le monde les aide.
Et ça monte une bonne image du quartier, mais c'est pas ça la première chose, c'est plus d'aider les autres. C'est ça la première chose à faire.
C'est à Sarcelles que ça a démarré. Nous, on est contents parce qu'à la télé, ils nous montrent n'importe quoi sur Sarcelles. Quand il y a une vieille qui a besoin de... Avec ses bagages, il y a plein de petits qui la connaissent même pas, qui prennent ses bagages, qui la ramènent chez elle. Mais ça, c'est caché, ça sort pas, personne ne le voit. Et nous, tout ce qu'on nous montre, c'est de la drogue, des bagarres, etc. Dès qu'on voit de la violence, c'est ça qu'on filme, qu'on monte sur cette A8 ou Capitale. Mais quelqu'un qui fait des dons, on ne le montre pas.
Je suis François Pupponi, je suis député et maire de Sarcelles.
Donc je veux bien que vous m'expliquiez, en fait, là on est devant une ancienne maison de retraite, c'est ça?
Oui, c'est une maison de retraite qui a été abandonnée par la ville de Paris, mais qui leur appartient toujours. Nous, ça fait 2 ans qu'on essaie de récupérer le site pour en faire un projet culturel, social, y compris pour une résidence pour réfugiés dans ce centre-là. Et la ville de Paris, on n'arrive pas à leur racheter. Bon. Et eux, ils l'utilisent maintenant depuis le mois de juillet, 2 fois depuis le mois de juillet, pour un centre d'hébergement d'urgence. Voilà. Sans notre avis, sans nous demander notre accord. Voilà. Et là, ils ont envoyé avec l'État 850 réfugiés. Et accessoirement, c'est un site qui peut accueillir 200 personnes. Bon, là, ils en mettent 850. Moi, j'ai pas de problème avec les réfugiés. Je répète, nous, on accueille depuis 3 ans des réfugiés qui viennent d'Irak encore cette semaine. Et on leur a réservé 50 appartements à Sarcelles à ces gens-là. Et moi, j'ai dit à la population, voilà, les appartements que je devrais vous donner, je les donne aux réfugiés. Il n'y a personne qui m'a dit non. Tout le monde a dit, monsieur le maire, vous avez raison. Les habitants, ils ont bien compris qu'eux, ils sont peut-être mal logés. Mais entre des gens qui viennent d'Irak, qui risquent leur vie, et nous qui sommes mal logés, ils préfèrent donner un appartement à ceux qui risquent leur vie. Les Sarcellois, ils sont responsables, c'est des gens intelligents, ils comprennent. Par contre, qu'on me trouve une ville en France où on prend 30% des réfugiés de Paris. Là, on nous a envoyé 30% des réfugiés de Paris.
Donc, c'est des migrants qui étaient à Stalingrad, hein, dans le 19e, voilà. Il y a encore 3 jours.
À Stalingrad, il y avait 3800 migrants. Il y en a 900 qui ont été envoyés à Sarcelles. Donc, on prend 30% des réfugiés de Stalingrad. J'ai du mal à croire qu'à Paris, il n'y ait pas un endroit où mettre 850 personnes. On peut réquisitionner les gymnases à Paris. On peut le faire. Pourquoi on réquisitionne un lieu à Sarcelles et pas à Paris? Ou alors on décide que oui, Sarcelles, ça devient un deuxième Calais, on le fait ici, on met 850 réfugiés.
À Pierrefitte.
Ceux qui peuvent venir à Pierrefitte.
Bravo à tous.
Voilà, c'était un reportage d'Alice Milo. La maison de retraite des Cèdres Bleus est un centre d'hébergement d'urgence temporaire et les 850 réfugiés... Ils sont donc restés que quelques jours, puisque à l'heure où l'on vous parle, ils ont déjà été redirigés vers d'autres villes du pays. Mais évidemment, il y a de nouveaux migrants qui affluent déjà à Stalingrad dans le 19e à Paris. Le problème risque donc de se reposer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà, après le chaos et le combat d'une femme, Enda Ayari, le chaos des migrants. Que vous inspire cette mobilisation des habitants des quartiers qui eux-mêmes sont issus de l'immigration, comme vous par exemple?
Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que ces gens sont exemplaires. Comme on dit, ce n'est pas toujours ceux qui ont le plus qui donnent le moins. C'est vrai que quand on se retrouve dans une situation difficile, on a tendance à comprendre plus facilement l'autre qui se retrouve dans une situation difficile.
On ne terminera pas cette émission avec vous, Enda Ayari, sans forcément que je vous pose la question à quelques mois de l'élection présidentielle. Finalement, qu'est-ce que vous, une femme comme vous, avec ce que vous avez traversé, qu'est-ce que vous attendez des candidats, des programmes?
Moi, ce que j'attends, c'est que les personnes issues de l'immigration aient plus de possibilités, justement, au niveau social, qu'on puisse, justement, leur permettre d'accéder à des métiers, à des postes intéressant, qu'on leur donne leur chance de s'insérer dans cette société. Vous savez, c'est tellement facile pour les extrémistes de dire « Tu vois, la France ne fait rien pour toi. Nous, on te donne une chance de vivre heureux et épanoui. Mmh. Ils ne veulent pas de toi, alors ne fais plus d'efforts pour t'insérer, ça ne sert à rien. »
Vous trouvez que finalement, la France ne vous a pas donné votre chance sur le plan du système éducatif. Néanmoins, elle vous a permis de ne pas sombrer dans le drame absolu avec un vrai matelas d'aide sociale.
Oui, mais vous savez, c'est pas les aides sociales qui vont faire que vous allez vous épanouir dans la société. Au contraire, les aides sociales, c'est bien quand on on a vécu un accident de la vie, entre guillemets, ça peut être un divorce pour une femme battue, ça peut être un veuvage, mais pour moi, ça ne doit pas être du long terme. On ne peut pas passer une vie à vivre des aides sociales. Ce qui est important,
s'il y avait une chose alors que vous demanderiez au candidat, là, dans quelques mois, la présidentielle.
Alors, ce serait d'aider les femmes, justement, en particulier les femmes qui ont des enfants, qui se retrouvent seules en difficulté après un divorce, c'est de les aider à faire des formations, à s'insérer dans la société, à retrouver un travail, de les aider dans la création d'entreprises. Il faut que ces femmes se sentent utiles à la société, parce que si elles se sentent rejetées, en particulier les femmes qui portent le voile. Moi, je n'attaque pas les femmes qui portent le voile. J'ai fait le choix de retirer mon voile et j'attaque la doctrine salafiste qui est totalement différente de l'islam. C'est très important de le souligner, mais j'aimerais qu'on tende la main à ces femmes-là et qu'on cesse de les rejeter.
Merci beaucoup, Enda Ayari. Vous publiez « J'ai choisi d'être libre, rescapé du salafisme » et c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'être passé par le studio de cette minute.
Merci à vous.
Merci à l'équipe Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins. Je reçois Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef au journal La Croix. Elle publie une enquête passionnante sur le scandale de la pédophilie à Lyon. Histoire d'un silence, une catholique raconte. Très bonne fin de semaine sur RFI. À lundi. Éco-dix.